RCF.
RCF, Fabrice Gironnet.
18h10, nous sommes vendredi, c'est le dernier 18-19 présenté par Alexis Claudretz.
Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour la dernière de cette semaine. Avant pour ma part de prendre quelques jours de repos, vous serez très bien accompagné la semaine prochaine par Jean-Pierre Benoît avec toujours ce magazine des vacances. Ne vous en faites pas, à mes côtés ce soir, vous l'avez entendu, Fabrice Gironnet à la mise en onde et du côté de la régie. En studio, nous avons Alice Dark qui vit son dernier jour au sein de la rédaction de RCF France-Ardennes en tant que stagiaire. Alice, bonsoir.
Bonsoir.
Votre dernier jour, quoique on vous retrouvera peut-être l'année prochaine en termes de saison radio à partir du mois de novembre certainement, et on vous retrouve d'ici quelques minutes pour les tendances de ce week-end. Au programme ce vendredi, vaccin anti-grippe des personnes âgées, un retrait inhabituel, c'est l'objet de la chronique d'actualité du professeur Jacques Cohen. Évidemment, il y a les habitués, Monseigneur Étienne Véteux, évêque auxiliaire du diocèse de Reims et des Ardennes, posera son regard sur l'actualité de l'Église dans le diocèse, en France et dans le monde. Nous serons également avec Anne Desveronnières, maire de Pomacle près de Reims. C'est donc la mère qui nous parle aujourd'hui. Dans les nouvelles diocésaines, on évoquera un Pélé Canoë sur la Meuse. Le rendez-vous, c'est du 9 au 12 mai. Mais les inscriptions, c'est dès maintenant. Et puis, on parlera sport avec l'engagement sportif des dirigeants, mais aussi l'engagement des bénévoles. Olivier Laurent, de la dynastie des frères Laurent, évidemment. Les frères Laurent qui avaient œuvré énormément pour le club sportif Sedan Ardennes dans les années 40 avec Lucien et Maurice Laurent. Eh bien, Olivier Laurent nous parlera de l'engagement sportif, de l'engagement bénévole et de l'engagement en tant que dirigeant. Tout cela, c'est au programme ce soir. On commence par la chronique d'actualité du professeur Jacques Cohen en ligne avec nous. Professeur, bonjour.
Bonjour. Eh bien, aujourd'hui, on va faire de la santé.
Effectivement, c'est le sujet que vous avez choisi. On va parler des vaccins anti-grippe et plus particulièrement du vaccin Efluelda avec un retrait inhabituel. Si l'on fait une photographie, professeur, de tout cela, de quoi voulez-vous nous parler concrètement ?
Le ministère de la Santé a annoncé le retrait dans quelques semaines du produit Efluelda, qui est un vaccin anti-grippe 4 fois plus dosé pour les personnes âgées qui ont besoin d'avoir un système immunitaire plus stimulé pour répondre. Il est relativement courant qu'il y ait des retraits de médicaments pour des problèmes de tolérance, et même des vaccins, ça arrive de temps en temps, sur des incidents de l'eau ou autre. Mais là, on est à la mise sur la place publique d'une bataille de chiffonniers traditionnels aussi, mais qui d'habitude se déroule à guichet fermé, qui est la discussion entre le comité technique du médicament et le laboratoire sur le prix auquel un produit sera remboursé. Pourquoi sur la place publique? Parce que cette fois-ci, de façon totalement inhabituelle, au lieu de discuter entre quatre yeux et en privé, la chose est sur la place publique. Un prix du médicament a été fixé à 31 euros. Et puis à ce moment-là, la firme dit qu'elle perd de l'argent, le gouvernement dit que c'est déjà bien assez cher comme ça. Mais en ayant été persuadé qu'on finirait par trouver une solution, on s'est laissé aller, si je puis dire, à ce que le produit soit autorisé et mis sur le marché, avec un point qui est quand même très tangent, qui a probablement contribué au cafouillage, c'est que les vaccins antigrippaux des personnes âgées sont pris en charge par l'État. Ils sont gratuits, ils ne sont pas au prix du marché, même si officiellement c'est 65% seulement de remboursement pour un produit à 31 euros, si je ne me trompe pas, au catalogue. Ce genre de campagne, généralement, se produit avec une prise en charge. Et là, on a quelque chose d'inhabituel qui risque de retomber sur les pieds des deux, parce que c'est une bagarre où il risque d'y avoir deux perdants et pas de gagnants. Parce que la firme défend que le produit est utile et qu'il apporte quelque chose par rapport au précédent vaccin. Elle rajoute que, comme il y en a quatre fois plus dans la seringue, elle ne rentre pas dans ses frais avec le prix fixé. Il y a du vrai et du faux là-dedans, mais ça risque de leur retomber sur les pieds parce que la firme va récupérer là-dedans une image de rapace et le gouvernement une image de rapia. Parce qu'il y a un bénéfice technique à ce vaccin par rapport au précédent. Et là, la réponse gouvernementale, c'est oui, mais le bénéfice, il n'est pas si élevé que ça par rapport au coût, au surcoût. Et donc, ça ira bien pour les vieux de leur filer l'ancien vaccin. Donc, dans les deux cas, les protagonistes risquent d'y laisser des plumes, si je puis dire, au point de vue image, pour quelque chose qui est invraisemblable, c'est que d'habitude ce genre de discussion de marchand de tapis ne se passe pas sur la place publique et surtout n'aboutit pas à un bras de fer disant « vous pouvez remballer votre vaccin, on n'en veut pas en France ». ce qui d'ailleurs du point de vue de Sanofi n'est pas un arrêt de mort parce qu'il est autorisé aux États-Unis. Je pense dans la plupart des pays d'Europe, c'est juste une question de discussion sur les prix. Et d'ailleurs, le retrait va d'ailleurs poser un problème parce que on n'a jamais jusqu'à présent retiré un produit sur des questions financières. C'est toujours sur des questions techniques. Et là, il n'y en a pas qui puisse être mise en avant. Et donc, techniquement, ce qui serait possible, c'est de le dérembourser. Mais de le retirer pour des raisons financière pose un problème juridique assez épineux que je pense le labo ne va pas manquer d'accrocher. Donc on a l'impression que le savoir-faire ou la gestion des questions médicamenteuses du point de vue gouvernemental se situe quand même pas loin du cafouillage avec cette chose et avec un autre sujet qui est tombé récemment qui est la question de l'attitude gouvernementale devant la vente de Biogarant dont le propriétaire qui est Servier veut se débarrasser. Alors il faut peut-être expliquer un peu plus ce que sont les génériques, ce qu'est une firme de génériques et pourquoi un fabricant de médicaments contrôlait cette firme de génériques et d'ailleurs pourquoi il n'en veut plus. Donc ça c'est un sujet qui est également un béaba de la question des médicaments et on a l'impression assez curieuse que le ministère de la Santé et Bercy, qui ne se parlent pas forcément beaucoup, n'ont pas une vue exacte du sujet. Alors, Biogarant, donc principal générique français, qu'est-ce qu'un générique? C'est un produit qui n'est plus protégé et qui, donc dans ce cas-là, la plupart du temps, n'utilisera plus la marque, le nom qui est connu, donc ce qui fait la niche du marché, qui peut être fabriqué par n'importe qui et vendu généralement beaucoup moins cher que quand il était protégé. Pour les génériqueurs, il s'agit de prendre des produits éprouvés par définition, avec des coûts de fabrication qui soient faibles et des coûts de mise sur le marché qu'ils soient également, parce que la démonstration de l'efficacité et de la sécurité d'un produit neuf et celle d'un produit, j'allais dire, usagé ne sont pas les mêmes. Là, on demande simplement de démontrer la bioéquivalence sans dépenser toutes les études de la sortie du produit. Alors, c'est devenu une spécialité. Il y a des firmes génériqueurs qui utilise cette niche qui permet de faire des médicaments en triant un petit peu, des choses simples à faire, des gros volumes et des petites marges. Alors Biogarant était le principal, ouais, le principal génériqueur français. Un deuxième génériqueur, par exemple, c'est la firme Teva, qui est une firme israélienne. Et le paysage pharmaceutique comporte des éléments qui sont un petit peu de fuite en avant. Biogarant appartient à Servier, qui est un laboratoire qui fait des produits traditionnels et si possible novateurs. Biogarant rapporte de l'argent, mais pas tant que ça. Et il en immobilise beaucoup. Et donc Servier veut se débarrasser de Biogarant parce qu'il a besoin de cash pour continuer la course avec ses concurrents, les fabricants de vrais médicaments, j'allais dire, de médicaments nouveaux, où les investissements sont élevés et où le taux de rentabilité, malgré les apparences, est quand même très élevé lui aussi. Et donc une immobilisation importante à faible taux, ça ne l'étend plus. Alors ça rentre en collision majeure avec le discours gouvernemental de souveraineté médicamenteuse, de vouloir tout ramener à la maison. Et ça, ça se confronte aussi à la réalité du marché mondial des médicaments, parce que l'un des matières premières vrac, le produit, qu'ils sont fabriqués par chimie fine dans peu de pays, mais très rarement, même quasiment plus chez nous. Parce que c'est fabriqué non pas seulement en Chine, comme tout le monde le dit, mais au Pakistan, en Inde et au Bangladesh. Parce que ce sont des secteurs où la faible marge et que les rapatriés, si on veut s'amuser à le faire à la maison, va conduire à des coûts beaucoup plus élevés, et donc à renchérir le prix réel de fabrication des médicaments. Il y a d'autres catégories de génériques, ce sont les génériques non pas de produits simples, mais de produits compliqués, pour schématiser, de produits biologiques. Là, les investissements, même pour génériquer, sont plus importants, mais la marge est plus importante. Et on voit des gens qui s'échappent de leur niche. Teva, par exemple, qui a une niche initiale sur les génériques bas de gamme, s'est décalé à faire des génériques, j'allais dire, haut de gamme, et même à faire maintenant des produits originaux, ce qui montre la fluidité, en fait, du secteur pharmaceutique. L'autre fluidité, c'est que pour acheter Biogarant, qui est sur les rangs, eh bien, les fabricants des produits vrac, du principe actif, des firmes, par exemple, indiennes, ou chinoises, ou du Bangladesh, parce que eux, ils ont la possibilité d'agrandir leur niche vers le haut, vers des produits qui ont quand même une valeur ajoutée plus importante que de vendre la poudre en baril, si je puis dire. Et on pourrait se poser ici la question, est-ce que c'est intéressant de rapatrier des choses comme ça? Le raisonnement, c'est la sécurité médicamenteuse. C'est pas sûr du tout, compte tenu des cycles et de la production, qu'on ne puisse pas avoir des stocks qui permettent de pallier à une crise ou qui permettent d'avoir diversifié ses fournisseurs pour ne pas risquer de début de rupture d'approvisionnement. On n'est pas obligé obligé de tout mettre à la maison, ce qui n'aurait à ce moment-là qu'une conséquence, c'est-à-dire des renchérissements considérables. Alors, on a aussi quelquefois des politiques des firmes qui sont un peu bizarres. Et là, c'est Sanofi, comme pour le vaccin, si j'ose dire, qui essaye de faire survivre le Doliprane. Le Doliprane étant un produit qui est génériqué, mais au lieu de l'avoir repassé à un génériqueur, Sanofi semble vouloir continuer le produit d'une main et de l'autre préparer sa bascule vers les génériques en réduisant la production. Ce n'est pas le manque de produits de base qui fait les pénuries de Doliprane, c'est une politique industrielle qui est que, considérant que sa marge n'est pas bien considérable, ce n'est pas la peine de continuer à tenir cette niche et qu'on devrait le passer à un génériqueur. Sauf que comme ce n'est pas fait, le résultat pratique, c'est que la planification de l'obsolescence d'un produit bute sur le fait que son remplacement n'est pas assuré. Donc ça, c'est une question de politique industrielle des uns et des autres. Mais c'est un petit peu sur des politiques, j'allais dire, contradictoires. Ce n'est pas une question de pénurie vraie. Et on aurait plus de matières premières sur laquelle il n'y a jamais eu de pénurie. On n'aurait pas résolu cette question de la fabrication et des doses de Doliprane, dont la persistance n'était pas anticipée par Sanofi, qui pensait que les génériqueurs allaient rapidement le remplacer sur ce secteur. Donc vous voyez que le paysage pharmaceutique est quelque chose d'un peu plus compliqué que l'illusion de fabricants français avec des médicaments qui peuvent courir dans la prairie et manger du grain au lieu d'être en batterie. On n'est pas dans des histoires de poulet.
Eh bien, un grand merci, professeur Jacques Cohen, de nous avoir éclairé sur ces différents aspects du paysage médical français et les différentes annonces gouvernementales qui ne sont pas toujours cohérentes ou en tout cas qui ne tiennent pas forcément compte de la réalité. À très bientôt, professeur. Tout ce sujet est à retrouver sur votre blog jhmcohen.com.
À retrouver bientôt.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
18h22 sur RCF France-Ardenne dans ce magazine des vacances. Un maire, que dis-je, une mère qui nous parle. Anne Desveronnières de Paumacle est avec vous, Jean-Pierre.
Anne Desveronnières, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Merci d'être avec nous. Alors, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de Paumacle dans l'actualité, souvent. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter très généralement votre commune, le nombre d'habitants qui la composent ?
Bien sûr. Donc, nous sommes une commune de environ 500 habitants. On est 505 au dernier recensement. Nous avons la particularité d'être un village qui accueille aussi une zone industrielle. Donc, nous cohabitons entre les industries et les habitants. C'est vraiment la particularité du territoire parce que souvent, dans un village, il est rare d'avoir une zone industrielle. Donc, c'est pourtant le cas sur Paumacle et on essaye d'avoir une grande transparence avec les industries quand il y a des interrogations des habitants sur un bruit, une odeur. On travaille en toute transparence pour pouvoir donner des informations.
Cette acclimatation se passe bien finalement au fond ?
Oui, ça se passe bien parce qu'en fait, dès qu'on a une interrogation, on interroge les industries typiquement. Il y a eu un bruit qui était assez fort il y a quelques mois. On a demandé en fait à l'industrie de savoir ce que c'était. Elle nous a fait une explication qu'on a mise sur la page Facebook et puis ça a rassuré les gens en fait. À partir du moment où on dit ce qui se passe, c'était tout simplement un souci de réglage. Et du coup, vu qu'on a informé l'industrie, elle a pu régler sa situation et tout s'est bien passé.
Alors Anne Desveronnières, vous-même, vous êtes maire depuis combien de temps finalement à Paumacle ?
Alors je suis maire depuis 2018. Alors j'ai pris le mandat en cours, puisque le mandat de maire s'arrêtait en 2020. Mais l'ancienne équipe municipale a démissionné dans son intégralité. Et puis deux équipes se sont constituées en 2018 et les votes ont été en notre faveur. Donc moi j'avais identifié une personne comme étant le porteur de la liste, mais finalement cette personne ne voulait pas être maire et j'ai présenté ma candidature.
C'est vrai que c'était peut-être déjà dans votre ADN, vous étiez peut-être déjà conseillère municipale, vous étiez engagée sans doute dans des associations, dans des groupes, etc.
Alors dans des groupes, dans des associations, oui. Alors je vous avoue que je n'avais jamais fait partie d'un conseil municipal. Donc ça a été la grande surprise en fait pour les habitants qui ont dit bah tiens en fait elle n'y connaît rien. Mais pourquoi je me suis dit que j'allais me lancer ? Je me suis dit je sais demander de l'aide, je sais dire je ne sais pas, je sais dire est-ce que vous pouvez m'aider ? Et je pense que c'est ça qui était important parce que quand je suis arrivée, effectivement, je ne connaissais pas les interlocuteurs de la mairie parce que en tant que particulier, on n'a pas du tout les mêmes interlocuteurs. Mais assez facilement, les autres maires m'ont beaucoup aidée. Le maire de Bazancourt, le maire de Vitry-les-Reims. Voilà, je les ai appelés quand je ne savais pas. Ils m'ont dit, tiens, contacte telle personne. Et du coup, le message que je voudrais passer, c'est que même si un jour vous n'avez pas fait une activité, n'hésitez pas à y aller. Parce que quand on arrive avec un cœur neuf et une vision neuve, une vision différente, vous ne vous arrêterez pas au premier non, parce que souvent on va vous dire que les choses ne sont pas possibles. Bah, finalement, quand on n'y connaît rien, mais qu'on a envie de bien faire, je pense qu'on peut arriver à beaucoup.
Vous êtes guidé aussi, certainement, nul doute, par la passion. Alors, comment peut-on caractériser votre commune? Quel type d'habitants? Des personnes plus âgées? Il y a quelques jeunes? Il y a des gens qui s'installent à Pomacle?
Oui, il y a eu pas mal d'installations ces dernières années, parce que on a eu des terrains qui se vendaient, donc des jeunes familles qui sont arrivées. On a aussi des personnes qui sont un peu plus âgées. Je dirais qu'on a un tiers de jeunes, parce qu'on a beaucoup de jeunes sur le village aujourd'hui. Ensuite, bah, des personnes qui sont en âge de 20 à 60, 65 ans, et puis bah, des personnes qui sont un peu plus âgées, pour à peu près un tiers également.
Vous l'avez déjà évoqué, Anne de Véronnière, mais j'y reviens un peu, car il y a des villages aujourd'hui, des communes, qui ont du mal à trouver des maires, des personnes qui vont s'investir, parce que ils se disent qu'il y a beaucoup de responsabilités. C'est vrai qu'aujourd'hui, un maire a beaucoup de responsabilités, finalement.
Oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. On est responsable de tout, en fait, de tout ce qui arrive sur une commune. Et typiquement, dernièrement, j'étais étonnée parce que je me disais, enfin, je discutais avec des responsables de voirie qui me disaient, mais Anne, quand des personnes font des travaux sur le devant de leur maison, qui n'ont pas fait de demande de travaux, c'est la responsabilité du maire. Je m'attendais, vous plaisantez. Et la personne m'a dit, mais oui, en fait, vous devez voir tout ce qui se fait sur le village. Et c'est pour vous dire l'étendue de ce qu'on doit faire en tant que maire. On doit vérifier que tout le monde est en sécurité. Quand il y a du vent, bah, je vais faire le tour du village avec les adjoints pour voir si un arbre est tombé. Sécuriser en permanence, en fait, tout ce qui se passe.
Donc, alors,
on est aidé hein, pour ça.
Vous êtes aidé. D'ailleurs, justement, il y a le maire, il y a la commune, il y a Pomacle, mais il y a aussi les communautés de communes, et vous particulièrement, le Grand Reims. Mais vous êtes actrice aussi du Grand Reims.
Oui, alors effectivement, depuis 2020, la présidente du Grand Reims m'a proposé d'être vice-présidente du Grand Reims. Donc j'étais très fière parce que c'est une femme pour laquelle j'ai une grande admiration, parce qu'elle dit ce qu'elle fait, elle fait ce qu'elle dit et elle est courageuse. C'est-à-dire que c'est une courageuse politique. Puisque c'était elle, j'ai dit bien sûr, je viens travailler avec toi sur la mission de l'environnement. Et là, on a encore à nouveau beaucoup d'aide de la part des services, parce que un élu, il va prendre des décisions en fonction de ce que les services vont lui donner comme information et aussi en fonction de ce qu'il entend, de ce qui se fait. Et les gens nous alertent beaucoup, me disent, bah, tiens, sur l'environnement, on a vu qu'il y avait telle solution qui existait. Regarde, ça peut être intéressant pour le Grand Reims. Et on a la chance d'avoir beaucoup d'informations et beaucoup de possibilités aujourd'hui. D'ailleurs, c'est une date historique. Aujourd'hui, parce que nous avons annoncé ce matin avec le Grand Reims une nouvelle offre sur les mobilités. Donc ça veut dire que chaque personne qui habite même en zone rurale aura une offre de transport bien plus importante que ce qu'on avait auparavant, et ça sur tout le Grand Reims.
C'est vrai que c'est important de connaître les projets. Des projets en cours que vous avez, ou ceux qui vont être mis en place à court terme, moyen terme, long terme. Vous avez certainement quelques idées, Anne de Véronnière.
Oui, alors les projets qu'on a menés cette année, c'est que on a refait les grandes voiries départementales. On a lutté contre les îlots de chaleur et justement grâce aux informations que j'avais eues par le Grand Reims, je savais qu'on devait faire des trottoirs clairs pour lutter contre les îlots de chaleur, qu'on devait essayer d'intégrer l'eau au plus proche de là où elle tombe. Donc ça, c'était vraiment notre projet de cette année. Et puis, on a mis en place la loi L'Homme sur cette rue. Donc, la grande rue qui va à Bazancourt et la grande rue qui va à Reims. Donc, si vous passez par Pomacle, ne soyez pas étonnés par le marquage au sol. C'est un marquage qui nous invite à partager la route avec les vélos, avec les piétons, apprennent à avoir cet espace pour nous tous, pour qu'on utilise aussi les mobilités actives pour nous rendre d'une commune à une autre. Vous avez aussi peut-être vu que nous éteignons la nuit, mais nous avons une solution qui peut intéresser d'autres maires, c'est qu'on a un système qui s'appelle J'allume ma rue, c'est-à-dire que pour 5 minutes, on peut allumer sa rue pour rentrer chez soi. Donc ça, c'est vraiment
super. Ah, c'est une bonne idée, ça.
Oui, c'est extraordinaire et c'est très facile d'utilisation.
Alors simplement pour terminer, parce que le temps passe très vite, Anne de Véronnière, on fera d'autres émissions si vous en êtes d'accord. Et d'ailleurs, vous nous donnerez des informations sur Pomacle. Mais maire et vie professionnelle, maire et vie familiale, c'est du travail quand même, c'est pas toujours simple.
Alors, effectivement, j'ai décidé de devenir mère parce qu'en accord avec ma famille. parce qu'on savait que c'était très prenant. Et mes enfants partaient en études supérieures peu après. Et m'ont dit, mais maman, vas-y, on sait que tu vas vouloir aider les gens. Et ça fait la fierté de mes enfants. Et j'étais très heureuse que mes enfants voient en quoi j'avais envie d'aider, en fait, le territoire. Et ça, je trouve que c'était une bonne chose. Donc, ça se passe très bien, mais je pense qu'il faut le faire effectivement en accord avec sa famille.
Une dernière question, Anne de Véronnière, très rapide. Est-ce que vous êtes une mère heureuse?
Ah oui.
Une mère MIRE,
oui.
Hein?
Oui, tout à fait. Je suis une mère très heureuse parce que j'apprends tous les jours et que j'essaie de faire avancer mon territoire. Et ça, j'en suis heureuse. J'en suis très heureuse.
On aura l'occasion, bien sûr, de vous retrouver sur RCF. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt. Au revoir.
À bientôt, Jean-Pierre. Au revoir.
Le 18-19 sur RCF.
Et la suite de ce magazine, comme tous les vendredis, nos évêques du diocèse sont en alternance sur RCF France-Ardenne. Monseigneur Étienne Véteux était ce matin au téléphone avec Jean-Pierre depuis la gare de l'Est à Paris.
Monseigneur Étienne Véteux, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour à toutes et à tous.
Alors si vous êtes gare de l'Est, c'est parce que évidemment vous regagnez Reims, mais c'est aussi parce que vous venez de parcourir, d'accomplir un itinéraire à la rencontre des séminaristes de notre diocèse.
C'est ça. En fait, vous vous souvenez certainement que dimanche dernier, c'était le dimanche des vocations. Et j'en ai profité pour aller voir deux des lieux de formation où sont nos séminaristes. Nous n'avons plus de séminaire à Reims ou dans la région. Et donc, un certain nombre de séminaristes sont à l'abbaye de la Grâce, dans le sud de la France. Et puis, un certain nombre sont à Paris. Et donc, j'ai pu faire les deux lieux. C'est important que même s'ils sont formés ailleurs, il y ait ces liens avec nous. Ils viennent aussi régulièrement pour les vacances, pour l'été dans le diocèse. Et puis le fait qu'ils soient dans d'autres lieux de formation leur permet de découvrir l'Église de France tout entière, de découvrir d'autres lieux d'Église.
Alors évidemment, Monseigneur, c'est une belle transition avec ce qui va se passer la semaine prochaine, le pèlerinage, la marche des vocations avec Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort et vous-même. Vous allez sillonner les terres ardennaises et marnaises à partir de lundi prochain, Monseigneur.
C'est ça. Peut-être que je peux quand même vous dire un petit mot sur les deux lieux. Ça nous permettra de mieux marcher ensemble, de mieux prier ensemble pour ces séminaristes. J'ai passé 3 jours à La Grâce, donc près de Narbonne, qui est une abbaye de chanoines réguliers, parce que 3 des séminaristes du diocèse ont eu l'intuition que cette vie de chanoine était ce dont le diocèse avait besoin. Les chanoines sont, disons, à la croisée entre la vie monastique et la vie du prêtre diocésain classique. Ils ont une vie de prière très forte, une vie communautaire très forte, et à partir de là, ils rayonnent en mission dans la paroisse qui leur est confiée ou dans les paroisses qui leur sont confiées. Donc on peut prier pour ces jeunes et pour que ce projet puisse être, disons, confirmé, qu'on voit dans quel sens aller avec ce projet. En tout cas, ils vont très bien et ils sont très heureux d'être en lien avec Reims. Et puis les autres séminaristes sont au séminaire de Paris, où ils sont formés par petites maisonnées, de 6 à 10 personnes, là aussi avec une très forte insistance sur la vie fraternelle. On sent que c'est une question d'avenir pour les prêtres, c'est comment faire pour qu'ils puissent ne pas être isolés et vivre ensemble. Et ces séminaristes à Paris sont de pas mal de diocèses différents de France et sont formés ensemble en théologie, en pastorale, et donc, comme je disais, en vie commune.
Alors, évidemment, tout cela, vous allez le porter, vous allez porter la prière pour ces séminaristes et puis pour les vocations en général, à partir de lundi, pour une semaine exceptionnelle, avec Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort et vous-même, vous allez pèleriner, marcher dans le diocèse de lundi à samedi, on va y revenir. Ça, c'est quelque chose d'assez original, et sur une semaine, les deux évêques qui prennent leur bâton de pèlerin, si on peut être familier.
Oui, j'avoue que j'ai une grande attente de cette semaine. Même le fait de marcher à travers le diocèse, de pouvoir le faire avec Monseigneur de Moulin-Beaufort, de savoir que les évêques des autres provinces autour de nous vont faire la même démarche. L'idée de fond, c'est d'implorer le Seigneur pour les vocations. C'est lui qui nous envoie les prêtres dont nous avons besoin et nous devons l'implorer. C'est aussi une magnifique occasion de découvrir le diocèse à travers nos pieds. et de permettre aussi aux diocésains de le faire. Nous espérons être rejoints pour les temps de prière le matin, le soir, ou encore mieux pour ceux qui peuvent d'être rejoints pendant une journée de marche, par exemple. En fait, c'est une manière, je crois, de nous rappeler que la question des vocations n'est pas une question seulement pour les prêtres ou les évêques, mais que tous les chrétiens ont cette responsabilité. J'étais frappé de voir récemment un sondage qui dit que 90% des séminaristes sont en séminaire parce qu'un jour, quelqu'un leur a parlé de la vocation. Donc, rappelons-nous cette importance, cette responsabilité que nous avons tous d'espérer les vocations, de prier pour les vocations, et puis de ne pas hésiter à parler à des jeunes, même s'ils iront vers différents horizons. Le fait que la question leur soit posée déclenchera certainement un processus dans leur vie qui leur permettra de répondre à l'appel de Dieu, quel qu'il soit.
Alors les auditrices et les auditeurs de RCF ce matin, s'ils en ont le goût, ils vont vous rejoindre, ne serait-ce que pour une heure, pour une demi-heure, pour une demi-journée, pour une journée entière, sur les routes de la marche, de votre marche, vous, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort et vous-même, pour les vocations. Alors ça va démarrer lundi, le 29 avril, avec une messe à 9h30 au sanctuaire de Saint-Antoine des Hauts-Butés, vers Charleville, un office des Vêpres à 18h30 à l'église Sainte-Jeanne d'Arc à Charleville-Mézières et un temps de prière avec les sœurs de Bobo Diolasso, puis un repas partagé. Ça veut dire qu'on va pouvoir se greffer, suivant les possibilités, si on est marcheur ou non, dans votre pérégrination diocésaine qui va durer jusqu'à samedi.
Oui, nous espérons vraiment que nous serons accompagnés par la prière et puis que certains pourront marcher avec nous. Pendant l'ensemble d'une journée ou pendant juste une heure, vous pouvez trouver sur le site du diocèse le plan très précis des journées de marche. Et puis le dernier jour, nous nous retrouvons donc le samedi 4 mai à Reims. Et là, nous serons rejoints par les 6 autres diocèses qui marchent avec nous, qui marchent en parallèle avec nous. Et nous aurons une journée le matin à la cathédrale, une marche vers la cathédrale, puis la cathédrale, des ateliers, une pièce de théâtre à Saint-Sixte et puis une messe finale pour les vocations à Saint-Remy. Là, nous invitons vraiment largement à participer à un moment de cette semaine. Et priez aussi pour que le temps soit beau.
Alors ça s'améliore, hein. Ça s'améliore un petit peu déjà ce matin, il fait un petit peu moins frisquet, Monseigneur. Alors, le samedi, on rappelle quand même les horaires, 17h30, louange à la basilique Saint-Remy, 18h, une messe de clôture, ça sera le samedi à la basilique Saint-Remy, et puis, comme vous l'avez dit, toute une animation, à partir de 9h le matin, rendez-vous à l'église Saint-Nicaise. Alors, toute cette semaine, vous allez aller du côté des Hauts-Butés pour démarrer, ensuite au Carmel de la Fontaine-Olive à Signy, le 1er mai, c'est la journée Neuvisy, hein, un grand lieu pour le diocèse, le 2 mai, le jeudi, c'est une marche de Hermonville à Muison, et le vendredi 3 mai de Verzy-Verrier-la-Montagne. Ben écoutez, Monseigneur, c'est un bon entraînement aussi, je suis un peu familier encore, pour le marathon, parce que vous allez quand même, les kilomètres vont s'ajouter, Monseigneur.
D'accord, oui, alors on n'a pas tout à fait imaginé s'inscrire au marathon, mais je pourrais en parler avec l'archevêque, mais en tout cas, c'est vrai que je pense que ça permettra de voir très très concrètement les différentes réalités du diocèse autrement qu'en voiture, de rencontrer des personnes, de parler avec elles. Et puis aussi pour une invitation non seulement à participer à ce beau programme, mais rappelez-vous que sur le site du diocèse et puis sur des petites cartes que nous avons dans les églises, il y a le nom de chacun des séminaristes du diocèse, le prénom, et donc c'est l'occasion aussi de prier pour chacun individuellement.
On aura bien sûr l'occasion d'en reparler sur RCF et puis une conférence ce soir à Reims autour du père Louis Locher qui était un prêtre diocésain qui était parti au bout du monde, qui est conférence avec le père Claude Collignon, Monique Mazzoleni, puis un certain nombre de prêtres comme le père Arnaud Duic ou Jean-Paul Drez. Merci d'avoir été avec nous, Monseigneur.
Merci.
Le 18-19,
tous les jours,
sur RCF,
à Reims,
Châlons, Charleville-Mézières.
Une page sport désormais avec Olivier Laurent qui est avec nous pour nous parler de l'engagement bénévole et du rôle de dirigeant. Olivier Laurent, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, on vous connaît peut-être de nom dans les Ardennes. On va vous présenter quelques-unes de vos fonctions rapidement. Vous êtes membre du comité directeur à Sedan Gymnic. Vous êtes au comité régional de gymnastique du Grand Est. Vous êtes trésorier. Vous êtes également président du club de football de Villesmeuse. Plusieurs casquettes, évidemment. Et un nom de famille qui cause aussi aux Ardennais et même au-delà, sur, on en est sûr, sur les antennes de RCF France Ardennes. La famille Laurent, c'est une équipe, j'allais dire, d'engagés dans le monde du sport depuis 1946. C'est ce que vous me disiez, Olivier.
Alors, 1946, oui, c'est les tout débuts des frères Laurent au sein de l'UAST, du club de foot emblématique des Ardennes et de Sedan en particulier, oui.
Et donc, depuis, il y a toujours eu des personnes engagées dans le monde du sport dans votre famille. Et on a bien compris que vous en faites partie. Et aujourd'hui, c'est l'occasion, justement, de faire un zoom sur ces différents aspects. Parce que c'est vrai que s'engager en tant que dirigeant, de plus en tant que bénévole, Olivier Laurent, ce n'est pas forcément quelque chose d'évident en 2024.
C'est sans doute dû à une grosse évolution de la société. On était, si on revient un petit peu en arrière, il y a un siècle, les présidents de clubs étaient des gens qui représentaient leur club et qui allaient plus souvent, on va dire, à des vins d'honneur ou à des représentations. Et puis, au fil de l'eau, ça s'est professionnalisé, tout ça. Et puis on peut dire qu'aujourd'hui, être président d'un club sportif ou d'un comité, c'est être devenu en quelque sorte un petit patron avec finalement les mêmes problématiques que la gestion d'entreprise.
Et tout cela, ce sont des activités bénévoles. Donc ça veut dire que ça demande quand même du temps, un engagement, du sérieux. Et c'est pas forcément tout le monde qui peut s'y coller. Et d'avoir ce regard, comme vous le disiez un petit peu, de chef d'entreprise, finalement, le tout sans rien demander en retour.
Ça tient un peu du sacerdoce parfois, mais évidemment il y a plein de contreparties, on pourra en parler. Bon, moi c'est en effet une maladie familiale, puisque en 1946, quand les frères Laurent se sont engagés dans le foot à Sedan, ça a été finalement l'envie de réussir un projet sportif au profit de Sedan et de tous les Ardennais. Ils sont pris de passion comme beaucoup d'autres. Et puis ça les a emmenés comme ça pendant 29 années de leur vie. À diriger un club sportif, alors pas du tout sous l'angle de l'entraînement, de l'aspect sportif, mais plutôt sous l'angle de la gestion. Et puis cette maladie familiale, elle s'est transmise à travers un grand-oncle qui a poursuivi, notamment dans la boxe à Sedan dans les années 70, et puis au cirque sportif sedanais aussi dans les années 80-90. Pour arriver donc à ce que moi je reprenne un peu le flambeau, par hasard finalement, on m'a demandé au début de dépanner dans le monde de la gymnastique, vraiment sous un angle de gestionnaire, puisque Sedan Gymnic était à l'époque en danger de mort. Et puis je l'ai repris comme on reprendrait une entreprise, en effet, et maintenant ça fait 18 ou 19 ans que j'exerce tout ça au niveau de la gestion de la gym, mais aussi du football.
J'allais dire finalement mettre un pied dans le sport, Olivier Laurent, pour vous, et justement prendre ses fonctions de dirigeant, même si c'est arrivé un petit peu par hasard, c'est quelque chose qui est dans votre ADN.
Oui, c'était assez naturel, puis je dirais que quand on m'a appelé, on m'a appelé parce qu'on a finalement le stample d'être des gestionnaires du sport. Bon, faut le faire par passion, évidemment. Déjà, faut aimer le sport, il faut aimer diriger. Ça se fait parfois plutôt dans l'ombre. Tout le monde se souvient des entraîneurs. On ne se souvient pas forcément des dirigeants. Il suffit d'aller au stade Louis-Dugoguez pour en voir la réalité des choses. Le stade, il porte pas le nom des frères Laurent, il porte le nom de l'entraîneur. Donc il faut le faire de manière désintéressée. Il faut le faire avec l'envie de servir. Et puis en effet, ça prend beaucoup de temps, avec beaucoup de contreparties, de plaisir, parfois intérieur, parce que ce n'est pas forcément vu et su en première ligne.
Effectivement, Olivier Laurent, vous nous parlez aujourd'hui de la situation des dirigeants, qui est un engagement bénévole, mais si l'on regarde plus largement, et même nous sur RCF, on est sensible à cette problématique, comme de nombreuses associations. Aujourd'hui, l'engagement bénévole, le bénévolat, c'est quand même quelque chose de difficile pour essayer d'attirer des gens, j'allais dire, dans nos associations, de les faire participer, etc., leur faire comprendre que c'est quelque chose d'utile. Et il y a peut-être une perte de cette notion d'engagement. Et quel est votre regard, vous, sur ces choses-là?
Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a une première évolution qui est que finalement, on a évolué petit à petit dans une société de loisirs. Et si il y a 50 ans, on se posait pas de questions, on quittait son travail pour aller directement sur une action de bénévolat. On a tous connu des coachs de foot ou dans d'autres disciplines qui passaient finalement leur vie dans un club de sport. Aujourd'hui, il y a une évolution et sans doute que le bénévolat a évolué vers plutôt une action de mission ponctuelle. C'est-à-dire que si on organise un tournoi, si on organise un gros match, un événement, mais c'est valable aussi en dehors du sport, on va trouver des gens qui veulent bien donner de leur temps pendant un temps donné, précis, où ils vont vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes, mais ils ne veulent pas s'engager sur le long terme. ça, c'est la première chose qui fait qu'on trouve peut-être moins de bénévoles au long cours comme on a pu le trouver il y a quelques années. Et puis, le second point qui a largement évolué, c'est une forme de judiciarisation du bénévolat, plus de responsabilités. Aujourd'hui, il n'est pas rare qu'un président bénévole soit en même temps un employeur, qu'il soit soumis à la législation, aux règles du travail, aussi aux règles de la sécurité. On pourrait ajouter aussi tous ces sujets liés à l'éthique. On en entend beaucoup parler aujourd'hui dans le monde du sport. Tous ces problèmes d'éthique qui parfois font que les présidents sont confrontés à des choses qui peuvent largement les dépasser. Voilà, le comportement vis-à-vis d'adolescents, de mineurs, est-ce que tout est bien cadré? Enfin, tout ça, ça fait quand même beaucoup de responsabilités. J'ai parlé de judiciarisation parce que on a tendance à s'américaniser aussi et on pourrait vite se retrouver devant des tribunaux. Donc tout ça peut faire finalement peur à des bénévoles qui avant faisaient ça avec la foi du charbonnier, mais sans pour autant maîtriser forcément tout le cadre juridique ou légal d'une association.
Et pourtant, vous, on l'a dit au tout début de cet entretien, Olivier Laurent, dans ce numéro du Sportiplex de Mac, votre engagement, il est complet parce que c'est vrai que vous l'avez rappelé, vous êtes engagé au Sedan Gymnique. Depuis, vous avez même pris des fonctions au comité régional de gymnastique de Grand Est. Vous êtes président du club de foot de Villesmeuse auquel vous êtes venu, j'allais pas dire au secours, mais quand même en aide précieuse. Donc ça veut dire que vous, cet engagement-là, vous le prenez à bras-le-corps et vous faites de nombreuses choses pour de nombreux clubs dans divers domaines d'activité du département.
Je suis en effet dans le monde du foot, c'est presque un concours de circonstances. Bon, ma première fonction a été d'être un éphémère président de l'association CSSA au moment où les présidents bénévoles se succédaient au fil des ans aux côtés de Marc Dubois, donc ça c'était il y a quelques années. Et puis ayant bien connu le trésorier du CSSA qui était aussi trésorier du club athlétique de Villesmeuse, il m'a demandé si je pouvais venir donner un coup de main et donc, après c'est les hasards, je me suis retrouvé donc à la présidence de ce club qui est un superbe club bénévole avec plus de 300 licenciés et c'est déjà ma quatrième année de présidence. Puis dans le monde de la gym, là j'y suis donc depuis quelques années, j'ai été 15 ans président de Sedan Gymnique. Aujourd'hui, je suis encore membre de ce comité directeur, je suis président du comité départemental de gym des Ardennes et trésorier en effet du comité régional de gym du Grand Est. Alors tout ça, c'est la reconnaissance d'un certain savoir-faire au niveau des présidences et des responsabilités qui incombent à une présidence. Et puis aussi, la trésorerie, puisque là, on est dans le monde du sport, mais je suis aussi trésorier de quelques associations comme la mission locale de Charleville ou encore l'office de tourisme de Sedan Charleville en Ardennes.
Ça fait quand même pas mal de casquettes et beaucoup d'engagements bénévoles. Et justement, pour vous qui avez tous ces engagements, à votre avis, c'est quoi qu'il faudrait faire aujourd'hui pour que les associations ou pour que les citoyens retrouvent de nouveau cette envie de s'engager, peut-être comme vous le disiez, un peu plus sur le long terme, de s'investir davantage dans les associations? Qu'est-ce qu'il manque? Et vous, comment vous faites pour tenir aussi tous ces engagements à bras-le-corps et puis faire en sorte que ces structures, parce qu'on imagine qu'elles fonctionnent avec des bénévoles, justement, que ça fonctionne?
Bon, pour reprendre tous les engagements que je prends, faut être un peu fada quand même, ça, faut le dire.
Il faut pas dormir beaucoup, certainement, Olivier Laurent.
J'ai la chance d'avoir un cerveau bien compartimenté, donc j'arrive à séparer toutes les activités. Et puis, en effet, d'avoir un temps de récupération qui est assez court. Je pense qu'il y a les 5 heures de sommeil et j'arrive à assurer la journée suivante. Donc, ça me permet aussi de pratiquer le sport parce qu'il faut quand même aimer ça, le sport. Donc, je connais quelques marathons régulièrement, à peu près 2 fois par an. Je passe aussi un peu de temps sur les routes. Mais me concernant, c'est une passion, c'est peut-être un cas à part. Je dirais, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour valoriser tous ces bénévoles qui donnent du temps? Il y a un vrai sujet aujourd'hui, il y a sans doute un sujet de reconnaissance. Alors, c'est du bénévolat, donc du bénévolat, forcément, il n'y a pas de salariat derrière. Mais il pourrait sans doute y avoir une valorisation, par exemple, au niveau des trimestres. On parle beaucoup des retraites aujourd'hui. Sans parler d'augmentation des retraites, on pourrait imaginer qu'il y a une différence entre une personne qui aurait connu quelques années de chômage et une autre qui aurait connu quelques années de chômage, mais en donnant beaucoup de son temps en bénévolat. Donc il y a peut-être des pistes à voir là-dessus, en validant quelques trimestres parfois qui manquent à des personnes qui ont donné beaucoup de temps au service des autres quand ils n'étaient pas en activité. Je pense que ça pourrait être une vraie reconnaissance. Et puis, parfois, c'est pas évident de valoriser les bénévoles et de penser à eux, mais sans doute qu'on a quelques responsabilités dans les clubs pour savoir mettre en avant tous ces bénévoles qui font tourner les clubs. Souvent, on parle beaucoup des présidents, on parle beaucoup des entraîneurs, on parle beaucoup des gens qui sont sur le devant de la scène. Et puis, on oublie le bénévole qui est à la buvette, celui qui fait cuire les crêpes ou les gaufres, ou encore la personne qui va aller faire les courses. dans l'anonymat complet. Et peut-être que voilà, parfois celui qui trace le terrain est aussi important que celui qui est sur le devant de la scène. Voilà, il y a un sujet de reconnaissance, je pense, principalement.
Eh bien, c'est sur ces mots et sur cette réflexion que l'on va se quitter aujourd'hui, Olivier Laurent. Si vous le voulez bien, on se retrouvera d'ici quelques semaines pour aborder d'autres sujets. Vous nous parliez tout à l'heure du stade Louis Gauguez. Effectivement, ce sera l'occasion de parler de l'avenir du foot à Sedan. On a appris pas mal de choses récemment, de parler aussi des Jeux Olympiques, avec comment on finance le sport de haut niveau dans les Ardennes avec le dispositif Trajectoire Olympique.
Merci beaucoup, avec grand plaisir.
Dans quelques instants, on part sur la Meuse à canoë. Finalement, on reste dans le sport.
Le 18-19 sur RCF.
Avec nous dans les studios de RCF Reims-Ardennes, on a le plaisir de recevoir Maxime Labesse, prêtre dans le diocèse de Reims et les Ardennes. Maxime, bonjour.
Bonjour Alexis, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous, avec toujours des beaux événements à nous présenter. On avait parlé récemment, c'était pendant la période hivernale, du camp ski et prière. On avait également présenté un peu les VTT qu'on avait pris l'habitude d'annoncer sur les ondes de RCF. Et puis, en 2024, une nouvelle initiative. C'est dans quelques semaines, quelques jours même, Maxime Labesse. C'est maintenant qu'on s'inscrit, en tout cas. De quoi s'agit-il ?
Il s'agit d'une nouvelle proposition, la proposition du camp Pelé-Canoë, donc qui est une nouvelle proposition dans notre diocèse qui sera le week-end de l'Ascension, entre le jeudi et le dimanche, donc du 9 au 12 mai. Et nous partirons en canoë sur la Meuse pour découvrir nos belles Ardennes et partir de Sedan vers le sanctuaire de Saint-Antoine des Hauts-Butés.
Une proposition originale qui permet de nouveau à la fois de rassembler des jeunes du diocèse et en même temps de découvrir son territoire d'une manière différente.
Tout à fait, c'est une proposition qui, dans la suite du camp ski prière et du Pelé à VTT, qui permet aux jeunes de vivre une expérience forte à la fois de vacances et en même temps de recherche spirituelle, de formation et encore une fois, comme le Pelé à VTT, de découvrir la richesse de notre beau paysage.
Alors lorsque l'on parle, Maxime Labesse, de Pelé, qu'est-ce que cela signifie concrètement ?
Concrètement, c'est l'abréviation d'un pèlerinage. Donc en fait, nous nous rendons en pèlerinage vers le sanctuaire Saint-Antoine des Hauts-Butés, qui est un des quatre sanctuaires de notre diocèse.
Pelé canoë du 9 au 12 mai sur la Meuse. Maxime Labesse, notre mission à RCF, évidemment, c'est de relayer ces initiatives diocésaines. Mais si on en parle, c'est aussi pour dire qu'il reste des places. C'est maintenant que l'on s'inscrit.
Tout à fait. Il reste quelques places, une dizaine. Donc, avis aux amateurs. C'est une proposition pour les lycéens et déjà les troisièmes. Donc, on accueille des jeunes entre 14 et 17 ans pour cette nouvelle aventure.
Et ça fera combien de jeunes au total qui pourraient être réunis potentiellement ?
On a maximum 20 places. On a donné pour cette première initiative, cette première édition, on a limité à 20 places pour ne pas se laisser déborder pour un nouveau projet. Donc là, actuellement, on a une dizaine d'inscrits, donc il nous resterait une dizaine de places.
Parce qu'on imagine qu'effectivement, pour cadrer les choses aussi, lorsque l'on part en canoë, c'est différent que lorsqu'on est à VTT ou que lorsque l'on est en ski. C'est encore une autre façon de faire et d'organiser la sécurité aussi, protéger nos jeunes qui sont dans cette aventure.
Tout à fait. Donc on a d'abord recruté un moniteur qui a les diplômes nécessaires pour encadrer l'activité du canoë et qui sera avec nous pendant les 4 jours. Et c'est lui qui dirigera l'activité canoë. Et puis, on est en itinérance, on campera de lieu en lieu, comme on le fait avec le pèlerinage à VTT. Et voilà, on est accueillis dans différents lieux de notre diocèse, de différentes paroisses, pour célébrer, être accueillis, découvrir ces lieux.
Justement, j'allais y venir, hein, Maxime Labesse, j'allais dire, est-ce que ça va être des campements en mode camping, peut-être pas sauvage, mais en tout cas, camping où on plante la tente, ou est-ce qu'on va être dans des lieux en dur, passer des soirées aussi de partage, etc. Comment ça se passe là aussi à ce niveau-là ?
On campe sous la tente chaque soir. On a un lieu de repli en cas d'intempéries, mais on campe sous la tente.
Dans les Ardennes, il fait toujours beau, Maxime Labesse.
Mais
vous
toujours,
le savez.
Toujours.
on ne prend pas de risque avec la météo dans les Ardennes.
Aucun. Donc, on campe sous tente, et puis on a effectivement le soir un temps de veillée, et puis le matin un temps d'enseignement avant de partir en canoë.
Évidemment, on présente donc ce Pelé canoë du 9 au 12 mai, c'est sur la Meuse, de Sedan au sanctuaire Saint-Antoine des Hauts-Butés. Maxime Labesse, on l'a dit, pour les 14-17 ans, en gros de la 3e à la terminale, hein, c'est ce qui correspond à cette tranche d'âge. Il y a un coût quand même à prévoir, et puis les modalités d'inscription, on a envie d'avoir un petit peu toutes les informations pratico-pratiques.
Alors, en effet, c'est pas gratuit parce que l'activité demande un petit peu un budget, donc on demande une participation de 190 euros par participant.
Qu'est-ce qu'elle couvre, cette participation de 190 euros ?
Elle couvre tout, entre le canoë, le matériel qui est loué, et puis l'intendance, les lieux d'hébergement.
Les repas,
tout est compris. Voilà, et donc on sera ravis d'accueillir ceux qui voudront rejoindre l'aventure. Donc on peut nous écrire à l'adresse mail pele.canoe@catholique-reims.fr et puis au téléphone au 07 48 90 88 88.
07 48 90 88 88 ou pelé.canoë@catholique-reims.fr. On rappelle les adresses dans quelques instants. Pour vous, Maxime Labesse, c'est une première, ce Pelé Canoë, pour le diocèse de Reims et des Ardennes. Quel est votre premier sentiment? Est-ce qu'il y a un sentiment un petit peu d'excitation, d'appréhension? Est-ce que c'est un petit peu un mélange de tout ça aussi? Qu'est-ce qui vous passe par la tête, là, au moment où on échange?
Un petit mélange de tout ça, parce que à la fois toujours très très heureux de pouvoir lancer de nouveaux projets et puis de pouvoir aider nos jeunes à pouvoir grandir dans la foi. C'est quand même notre premier projet et c'est ce pourquoi on veut faire cette proposition. Et en même temps, quelques appréhensions parce que c'est une organisation nouvelle, avec une activité nouvelle, un fonctionnement nouveau qu'il faut découvrir. Et on le fait en équipe, heureusement. Donc voilà, c'est en même temps une belle aventure et on sera heureux de pouvoir rejoindre les paroissiens qui nous accueilleront particulièrement à Sedan, à la messe du lieu eucharistique le jeudi de l'Ascension. Et puis, le dimanche 12 mai aussi, on sera au lieu eucharistique à Revin pour la messe paroissiale. Et ce sera des moments aussi où on pourra rencontrer les gens qui nous accueilleront.
Parmi l'équipe pour accompagner ces jeunes, vous nous avez parlé d'une personne qualifiée justement pour ce Pelé Canoë, pour un petit peu cet outil, voilà, le maîtriser, ce petit bateau, comment ça se passe, et puis pouvoir intervenir en cas de problème. Concernant l'équipe diocésaine, vous ferez partie de l'aventure, Maxime Labesse, bien évidemment. Quelles sont les autres personnes, des visages peut-être que les parents connaissent aussi, qui vous accompagnent certainement à travers le Pelé VTT, à travers le camp ski et prière, et d'autres, même peut-être des laïcs aussi, qui viennent vous accompagner, qui seront ceux à vos côtés?
Donc on est deux à organiser, avec Julien Henry, qui est...
Côté de Charleville-Mézières. Plutôt.
Qui est, oui, du côté de Mouzon. Il habite à Mouzon. Il est professeur d'histoire à Sedan. On organise tous les deux ensemble. Donc, on a recruté Gauthier, qui sera avec nous, qui est pour encadrer l'activité canoë, qui est diplômé du BPGEPS, activité nautique. Et puis, il y aura le frère Jean-Bernard, un de nos séminaristes, qui est en formation à l'abbaye de la Grâce, qui sera avec nous. Et puis aussi Benoît Bertrand, qui est aussi animateur pour nos camps depuis quelques années. Et qui sera avec nous. Et on est encore dans l'attente de recruter une personne, au moins une fille, pour rejoindre l'aventure.
Eh bien voilà, le message est passé, que l'on soit intéressé peut-être pour s'engager dans cette aventure, pour accompagner ces jeunes du diocèse, et notamment si vous êtes une fille, une jeune femme, eh bien pourquoi pas, c'est l'occasion de rejoindre l'équipe avec Maxime Labesse, Julien Henry, Gauthier et
Benoît Bertrand.
Benoît Bertrand, tout à fait. Voilà pour les informations. On rappelle que l'on peut s'inscrire aussi, hein, nos auditeurs, si vous avez des enfants, des petits-enfants qui ont envie de tenter l'aventure, le 9-12 mai, Pelé Canoë sur la Meuse avec le diocèse de Reims et les Ardennes, pour les 14-17 ans, en numéro de téléphone le 07 48 90 88 88 ou une adresse mail pelé.canoë@catholique-reims.fr. Dans les adresses mail, évidemment, on ne met pas les accents pelé.canoë@catholique-reims.fr. Merci Maxime Labesse.
Merci Alexis, merci à tous.
Et puis on vous souhaite un très bon week-end en avance en espérant que ça fasse le plein dès cette première édition.
Avec joie.
Après toutes ces nouvelles, on regarde du côté du ciel les tendances de ce week-end. Et pour cela, c'est avec notre stagiaire à la rédaction, Alice Dark. Alice, bonsoir.
Bonsoir Alexis.
Alors, quelles sont les tendances pour ce samedi et ce dimanche?
Votre matinée de ce samedi sera très nuageuse et les températures seront d'environ 9 degrés à Reims et dans les Ardennes. Les températures augmenteront dans l'après-midi. Elles atteindront les 15 degrés et le ciel ne se dégagera pas. Des averses sont prévues à Charleville-Mézières et des bourrasques de vent atteignant 40 km/h seront présentes à Vouziers. Pour votre soirée et votre nuit, les températures redescendront et resteront aux alentours des 14 degrés avec un ciel toujours aussi nuageux. Ce dimanche, votre matinée sera également nuageuse avec des températures plus élevées que la veille qui seront d'environ 13 degrés. Des bourrasques allant jusqu'à 45 km/h seront présentes à Reims, Charleville-Mézières, Sedan, Rethel et Vouziers. Le ciel s'éclaircira dans l'après-midi et les températures seront de 17 degrés. Des averses sont prévues à Charleville-Mézières et Sedan. Le vent soufflera encore plus fort avec des bourrasques pouvant atteindre les 55 km/h à Reims et dans les Ardennes. Le ciel se recouvrira durant la soirée et ne se dégagera pas de la nuit. Les températures diminueront pour être aux alentours des 14 degrés dans la soirée et des 9 degrés dans la nuit. N'oubliez pas de fêter l'Hésita ce samedi et les Valérie ce dimanche.
Merci Alice, et sur cette dernière météo se termine votre stage. Un grand merci pour votre investissement tout au long de cette semaine. On se retrouve peut-être au mois de novembre alors.
Eh bien, au mois de novembre, alors.
Merci, Alice. Passez une bonne soirée. Profitez bien de vos vacances parce que vous allez en avoir un petit peu lors de cette deuxième semaine. À tous nos auditeurs, la semaine prochaine, le magazine des vacances continue avec Jean-Pierre Benoît aux manettes. On vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous. Dans quelques instants, l'information nationale sur RCF.